RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Football Show. Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois, mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Et oui, jusqu'à minuit, nous sommes là avec Jérôme Rotel, l'ancien Bastille, avec Daniel Riolo, avec Simone Rovera qui nous rejoint. Simone, bonsoir.
Et je te conseille de faire attention à ce que le doute ne s'accapare pas dans ta tête.
Non, non, il n'y a pas de soucis.
Comme l'a dit notre petit générique, pas fait non. Ça date d'il y a quelques années. David Lorto, toujours avec nous. Oui, David, on voulait aborder l'autre dossier du jour chez toi en Allemagne. Et le Bayern veut Rabiot.
Oui, alors c'est nous, RMC Sport, qui avons annoncé cet intérêt du Bayern pour Rabiot. En fait, c'est un intérêt aussi du directeur sportif Salihamidžić, qui doit faire ses preuves cet hiver pour conforter son poste, pour conforter sa fonction et pour conforter son existence future au Bayern. Et donc c'est Salihamidžić qui s'occupe de ce dossier.
Il faut pas qu'il se gourde dans le recrutement. Merde, c'est déjà foutu.
Ce soir, le Bayern, le Bayern discute avec le Paris Saint-Germain, et en fait, le Bayern voudrait récupérer Rabiot tout de suite, avant même la fin du contrat.
Bah,
et
qui lâche 30 millions, Paris va le vendre direct, hein.
Bah, c'est sûr.
Même à 15 ans, restons en période de solde.
Même 10. Effectivement, c'est ça. C'est ça, Daniel. Mais c'est ça, ils sont prêts à payer tout de suite pour éviter d'avoir de la concurrence.
Mais sauf que l'autre, à mon avis, il a pas envie d'y aller.
En même temps, Jérôme, attends, faut comprendre. Pour Rabiot, le Bayern,
c'est pas
terrible comme club, quoi. Tu vois, lui,
c'est
Real, Barça minimum, quoi.
Ouais, est-ce que Rabiot voudra y aller au Bayern?
C'est pas assez grand pour lui. Comme il a bâché Tottenham, pour un mec de sa dimension.
Non, Manchester City, il veut pas y aller. Il a dit, ouais, c'est un club qui a pas gagné la Champions League.
Ah oui, non,
je prends pas le risque.
City, en plus avec Guardiola, il le connaît pas. Ouais, c'est pas assez.
Non,
alors que tu vois, en revanche, Véro Rabiot qui passe un coup de fil à Lyonnais pour lui faire qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi Adrien joue pas.
Ouais.
Ou à Rummenigge,
là, pourquoi pas.
Je pense que Véro Rabiot, Rummenigge dans le même bureau, je pense que ça peut, tu vois.
Ouais, ouais.
Je crois pas. Je sais pas.
Ah.
Bayern pas assez grand pour lui, je pense.
Non, ouais. Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, David? Le Bayern, c'est un petit club pour Rabiot.
Oui, je suis d'accord, Daniel. 5 Ligues des Champions, 20... combien ils en sont à 28, 29 titres, je sais même
pas. Pas assez pour lui. Pas assez.
Non, mais c'est quand même le profil du joueur, ce milieu de terrain, c'est intéressant pour le Bayern.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, il joue au Bayern? Avec
Rabiot,
l'effectif et ce qu'il y a en place. Il prend
mais
la place
impossible.
De qui, en fait?
C'est impossible, parce qu'il y a déjà, et c'est le sujet de débat du jour sur le Bayern, il y a déjà un embouteillage entre Thomas Müller, Thiago Alcantara, James Rodriguez. Derrière ces trois-là, vous avez Kimmich, Ravi Martinez. Ça va être compliqué de déloger ces cinq-là quand même.
Au Bayern, non, au Barça, ça va être plus simple pour Rabiot au Barça.
Et Tolisso blessé.
David, merci pour toutes ces infos.
Merci, messieurs.
Et bonne soirée. Non,
ce sera pas plus simple.
Juste, alors,
ça,
Gilbert, très vite,
oui.
Petite info. Ribéry, petit problème musculaire, serait absent pour 2 semaines.
Ben, ça, c'est la côte de bœuf.
Il va repartir.
J'avais dit, t'en as trop mangé de la côte de bœuf.
Mais
il aurait dû la couper en deux.
Je pense que c'est
petit pépin à l'entraînement à l'occasion du stage que le Bayern effectue actuellement au Qatar.
Petit vérif là-dessus.
Écoute,
merci
d'aller. J'y vais à la fin du mois.
Merci, monsieur.
Je vais faire une vidéo.
Je pense que c'est entrecôte.
J'y vais à la fin du mois, Daniel.
Tu vas à Dubaï?
Je te garantis que je vous envoie une vidéo de là-bas.
Avec la côte de bœuf en or.
Ah ouais.
Je te dis que c'est entrecôte, c'est pas côte de bœuf.
Je vais mettre le hashtag à pas mal.
Alors là, tu fais ça, tu nous régalerais bien, je dois dire.
Moi, je te dis que je vais le faire.
Ah bah magnifique.
Voilà. Donc, quand j'y serai, bien sûr, à la fin du mois.
Et le lendemain au shopping, les enfants, et c'est bon, on a tout claqué hier avec l'entrecôte. Bon.
Je mets tout de côté, là, déjà. Ça fait 15 jours que j'ai
vendu. Avec le shopping, on a tout mis dans l'entrecôte.
Ah, mais non, mais les gosses, ils restent à l'hôtel. Attends, même ma femme, j'y vais tout seul.
Tu la commandes pour la famille et les enfants.
M'emmerdez pas.
Je mets pas ce truc jaune dessus.
Cela dit, tu peux faire un doggy bag.
Ah, vous allez rigoler. Franchement, vous allez rigoler de ma vidéo.
Parfait.
Il est capable d'aller à l'hippopotamus et de balancer un truc d'or sur l'entrecôte et de faire croire. Il est là-bas.
On va pas repartir sur
allez, je veux qu'il y ait machin, comme il s'appelle, le cuisinier, sur la photo.
Non, les gars, s'il vous plaît. Vous le savez.
Tu m'as dit que c'était un dentier.
Vous le savez, il y a quelques jours, nouveau scandale de racisme dans un stade en Italie. C'était à Milan, lors d'un internat. D'ailleurs, Simone était présent. T'étais au stade, hein?
Ouais.
je précise dans la tribune de presse, hein, pas dans la tribune des supporters de.
Tribune de presse, pas dans la tribune des supporters.
Voilà, pas dans la tribune des supporters de l'Inter. Et donc, cri raciste envers Koulibaly, le joueur de Naples. D'ailleurs, l'Inter, suite à tout cela, va jouer deux matchs à huis clos. Sanction qui a été acceptée par le club italien hier. Évidemment, ce sont les sujets que nous évoquons dans l'after depuis des années. Moi, je me souviens des longues périodes où il y avait beaucoup de racisme en Espagne. Samuel Eto'o, à l'époque, joueur du Barça, dénonçait régulièrement ce qui se passait là-bas. Il y a des clubs allemands qui sont concernés, on y reviendra tout à l'heure. Il y en a eu aussi en Angleterre, en France également. On va se concentrer d'abord sur l'Italie et on est en compagnie de Sébastien Louis qui est avec nous, qui est spécialiste des mouvements ultra, notamment en Italie. Sébastien, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Je vais vous poser un certain nombre de questions, Daniel Jérôme
également. Il y a un très bon article dans Le Monde pendant les vacances, j'ai lu ça.
Tout à fait, je l'ai lu aussi. Voilà. Mais pas que, hein, pas mal de publications
oui,
de donc, Sébastien sur le sujet.
Cet article-là qui m'avait particulièrement intéressé.
Dont un livre hein, sur le mouvement ultra qui est sorti il y a quelques mois. Et puis bien sûr, on vous attend au 32-16 pour débattre ensuite sur l'arsenal de sanctions qu'il faut appliquer. On voit la couverture du livre de Sébastien là sur RMC Sport News. Ultra, les autres protagonistes du football. Sébastien, j'aimerais qu'on fasse pour démarrer un petit historique de l'évolution des faits de racisme en Italie.
Alors, premièrement, il faut savoir que la question du racisme, comme je l'ai dit dans mon article sur le blog que j'ai pour Le Monde, la première fois qu'on a eu un acte de racisme dans un stade italien, c'est à Vérone. C'est très intéressant, c'est en 1983, c'est lors d'un Verona-Cagliari, Hellas Verona. Donc le joueur Uribe, péruvien, est reçu avec des bananes et un étendard, la banane est bonne. Et donc c'est assez intéressant que ça débute à Vérone parce que c'est une tribune qui va marquer véritablement l'histoire du racisme par des groupes de supporters organisés. En 96, on se souvient, il y a cette photo qui a été publiée, Michael Ferrier, un joueur hollandais, originaire du Suriname, doit venir à Vérone. Et donc, avant un match, le derby, Hellas Verona-Chievo Verona, ils vont pendre un mannequin noir avec le maillot jaune et bleu. Et il est écrit en dialecte véronais, excusez-moi, hein, c'est écrit comme ça, le nègre nous l'offrons pour nettoyer le stade. Voilà. Donc on voit qu'à Vérone, depuis longtemps, et d'ailleurs c'est une tribune où on voit souvent à l'époque des croix gammées, des croix celtiques, il y a toute une histoire du racisme. Et cette question du racisme, il faut la lier aussi à la question de la montée des ligues. Car Vérone, c'est une ville où la Ligue Vénète fait ses premiers pas. Ensuite, la Ligue Vénète, elle s'est assemblée avec d'autres ligues septentrionales, comme la Ligue Lombarde, pour donner naissance à la Ligue du Nord. Et il y a tout ce langage qui va infiltrer justement les tribunes. Parce que tout simplement, les ligues septentrionales dénoncent les Terroni. Les Terroni, en italien, c'est les cutéreux. C'est le surnom des Italiens du Sud, que leur donnent les Italiens du Nord, pour se moquer d'eux. C'est une région, d'un point de vue footballistique, qui est pauvre en titres. Hein. Le premier titre, on vient avec Napoli, et donc c'est les Napolitains qui vont être les premiers, les victimes aussi, enfin les deuxièmes, parce qu'après cet acte de racisme, d'un racisme inter-italien.
Voilà, donc là, juste là, je vous stoppe à ce stade, donc là on constate déjà depuis pas mal d'années, deux types de racisme, racisme anti-noir en l'occurrence, que l'on décrit par des faits précis.
Et le plus fréquent qui est le régional.
Racisme régional
en Italie.
Au sein de l'Italie, entre clivage entre le nord et le sud.
Pour les gens de cette région-là.
Tout à fait, un racisme inter-italien qui est très fort. Il faut savoir qu'il y a en Italie énormément d'Italiens du Sud qui travaillent au Nord, car il est plus industriel. Ils étaient très mal reçus dans les années 60, on les considérait comme des moins que rien. Et donc, tout ce discours que la Ligue va reprendre, il va se retrouver dans les stades. En 86, lors d'un Vérone-Napoli, il y a trois banderoles très marquantes sorties par la curva sud de l'Hellas Vérone, par les ultras. Bienvenue en Italie, lavez-vous, et apartheid. Voilà. Et par la suite, il y aura souvent Naples qui va être les victimes, les Napolitains du racisme. Car Naples, c'est la métropole du Sud par excellence, qui incarne tous les maux de la société italienne, entre guillemets, la mafia, le népotisme, la corruption, etc. Et donc, on va s'en prendre aux Napolitains dans les stades. Et par la suite, quand on va avoir une arrivée massive de joueurs, enfin massive, pas si massive que ça, par rapport à d'autres championnats, de joueurs d'Afrique ou d'origine africaine, on va avoir un racisme anti-noir qui va se développer également parce que l'Italie change. À la fin des années 80, elle était une terre d'émigration. Tous les Italiens sont partis dans le monde entier et elle devient une terre d'immigration. Et à partir de là, va naître justement ces sentiments xénophobes contre les populations étrangères et que l'on va retrouver dans les stades. Car il faut savoir, et c'est ce que je dis dans mon livre, le stade, c'est un miroir déformant de nos sociétés.
Alors voilà un peu donc le panneau général et l'évolution. Est-ce que on peut dire, selon vous Sébastien, que la situation aujourd'hui dans les stades italiens, alors même s'il y a des actes scandaleux, on l'a encore vu récemment, est-ce que la situation aujourd'hui est meilleure qu'il y a quelques années ?
Alors paradoxalement, on peut dire qu'elle est meilleure. Il faut savoir que les actes racistes ne sont pas loin de là, tous de la part des ultras. C'est pas les ultras qui sont à l'origine de ces actes. Souvent, on peut voir dans les tribunes distinti, ou même dans les tribunes des ultras, sur les côtés, c'est des spectateurs, des tifosi, des simples tifosi qui font ces fameux cris de singe. Et d'ailleurs, il y a des les tribunes des groupes antiracistes, c'était le cas à Milan avec l'ancienne Fossa dei Leoni qui a disparu, qui interdisait ce genre de chant. Le leader, le capot, le mégaphone, il disait, on ne fait pas ce genre de chant ici, le racisme n'a pas sa place. Et il y a certaines tribunes qui prennent activement part à la lutte contre le racisme avec des messages. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on en a moins. Mais comme j'ai dit, dans une société italienne où l'extrême droite est au gouvernement, Matteo Salvini, qui est le numéro 2 du gouvernement italien, qui distille à longueur de journée, à travers ses tweets, à travers Facebook, des propos xénophobes, il est normal qu'on les retrouve également au stade, malheureusement. Mais la situation est bien meilleure qu'avant. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a une sensibilisation plus forte. Dans le même temps, l'Italie est souvent dans un déni. C'est-à-dire, il faut se rappeler les propos du président de la Fédération italienne au moment de sa candidature, avec l'ancien président qui avait parlé d'un joueur de la Lazio en disant qu'avant de venir en Italie, il mangeait des bananes et maintenant il est titulaire à la Lazio. Voilà, on en est là en Italie. Ce type a été élu président de la fédération. Il a uniquement été sanctionné par l'UEFA. Pendant un an, il ne pouvait pas venir aux réunions de l'UEFA, mais c'est tout. Il est devenu président, il a tenu des propos sexistes, discriminatoires contre les femmes, etc., etc. Donc ce problème, justement, il est profond. Il est profond et il vient justement, il faut voir, c'est une question bien évidemment d'éducation, mais au-delà de l'éducation, je pense que les sanctions globales n'ont aucun effet. Contre le racisme, alors, il faut des sanctions ciblées, bien évidemment.
On va y venir sur les sanctions. J'aimerais juste, Simonet, tu partages le...
En partie.
L'état des lieux, là, que nous fait Sébastien Louis?
En partie, parce que déjà, j'aime pas trop quand on fait des mélanges entre ce qui se passe dans les stades et la situation politique italienne, parce que c'est des choses qui commencent bien avant. Quand on fait des mélanges entre les racismes, qui j'utiliserai pas ces mots, territoriale italienne, parce que c'est des rapports qui partent d'une situation sociale très compliquée en Italie, entre le nord et le sud, à niveau économique, à niveau social, à niveau de l'organisation sanitaire, de tous les frais qui sont dépensés au nord par le sud. Donc il y a des raisons qui sont pas justifiables, mais qu'il faudrait expliquer, pour lesquelles il y a une relation très tendue entre le nord et le sud, et qui dans les stades trouve une sorte de ouvrons les cages, tout est possible dans les stades, tout a été toujours possible à dire et à faire pour plusieurs années. La chose vraie, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de contrôle, même si on a des épisodes de racisme, il y a des cris des singes, il y a des épisodes encore de discrimination territoriale, comme on les appelle aujourd'hui en Italie. Mais la situation est beaucoup moins grave.
C'est ce qu'a dit Sébastien Louis.
Ouais, attends, excuse-moi. Moi, je trouve que sur ce qu'a dit Sébastien Louis, il n'y a pas grand-chose à redire. Je pense qu'il a raison. D'abord, j'ai toujours considéré, et depuis qu'on fait cette émission, et je pense à juste titre, on a toujours considéré que le stade et ce qui se passait dans le football n'était rien d'autre qu'un reflet de ce qui pouvait se passer dans une société. C'est pour ça que le foot est le sport le plus populaire. Et c'est parce qu'il renvoie aux préoccupations qu'il peut y avoir dans une société, qui peut être le reflet de ce qui se passe dans un pays. Et effectivement, je trouve que, à la limite, c'est presque ce qui se passe dans le foot italien. C'est pas anecdotique, mais par rapport à ce qui peut se passer historiquement dans la société italienne ces dernières années, que tu entendes ça dans un stade, quand de toute façon tu retrouves ce racisme territorial à l'Assemblée, tout simplement, entre les députés qui viennent du Nord, qui viennent du Sud, bah, ça paraît logique quand dans la population, tout simplement, il y a ces antagonismes qui existent depuis toujours entre les gens du Nord, les gens du Sud.
Oh, mais c'est un antagonisme.
Mais c'est pas un antagonisme, c'est un rejet. C'est un rejet. La Ligue du Nord, qui est aujourd'hui, qui était d'abord Ligue Lombarde, qui est devenue Ligue du Nord, qui dirige le pays aujourd'hui par le biais de Salvini, c'était un parti raciste.
C'est plus une Ligue du Nord et que c'est une ligue qui a une 30% d'électeurs qui arrivent du sud de l'Italie.
Oui, c'est vrai ça aussi. C'est vrai. Non, il est également vrai. Il est vrai aussi en Sicile. Il y a des gens qui votent Ligue du Nord. Ça, c'est vrai. Aussi aberrant que ça puisse paraître, c'est vrai. Mais c'est pour dire que ce pays est traversé par un tel rejet de l'autre que, après tout, retrouver dans un stade un mec qui insulte un joueur noir. Ça me paraît, on devrait même pas s'en étonner. On devrait le condamner, ouais. Évidemment. S'en étonner cas, quand, on connaît, non, mais... quand on connaît l'état de la société italienne aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Mais le fait que tu aies un retour de ça en Angleterre, que
on va parler des autres pays après.
Dans les pays de l'Est, ça existe. Je pense que on est là encore dans le reflet de ce qui peut se passer dans les sociétés européennes aujourd'hui, avec un retour au premier plan de partis extrémistes, d'idées quand même plutôt sur repli sur soi.
Je voudrais expliquer quelque chose.
J'ai une question pour Sébastien.
Le Sicilien, il a le droit de voter Ligue du Nord. Je veux dire, il a le droit d'être raciste aussi. C'est pas parce qu'il est Sicilien qu'il est moins condamnable.
Tous les épisodes
récents
en Italie, vu ce
et moins récents
et tout du racisme,
dans toutes les manifestations de racisme de stade. Il y a un épisode en 2001 qui c'est un joueur du Treviso au Molade qui est insulté par ses propres supporters. Généralement, le racisme, c'est une forme, je trouve, très ignorante de mépris de l'adversaire. En Italie, utilisé presque sans souci, mais là aujourd'hui, on a arrivé depuis des années à combattre vraiment, depuis je pense une dizaine d'années, ça commence à combattre vraiment cet gros problème du racisme, mais c'est utilisé pour insulter, pour dénigrer, pour mépriser les adversaires. C'est pas un racisme. Les Italiens sont racistes. T'as Salvini au pouvoir, tu penses que les supporters de la Juve insultent Matuidi et de l'Inter insultent Azamoa.
T'arrives avec le drapeau collé sur le cul, genre les Italiens. On n'est pas le
drapeau collé sur le cul.
Qui veut te dire que les Italiens sont racistes?
Mais non, tu me dis que la société c'est raciste. Et alors, ça c'est raciste.
Non. Mais c'est, alors je vais te le redire. Comprendre. Je te dis que quand le pays est traversé depuis plusieurs années maintenant par des hommes politiques qui ont souvent un vocabulaire extrémiste de rejet, d'insulte, quand tu as eu au pouvoir pendant des années un homme comme Berlusconi qui faisait de la provocation une marque de fabrique du rejet de l'autre, de l'insulte,
Daniel, profitons des années 80, c'était les gens du sud qui étaient ciblés comme ça.
Simone, s'il te plaît.
Il y avait pas les Berlusconi.
Bien sûr.
Les gars,
aujourd'hui, c'est devenu
une question pour Sébastien Louis tout de même sur les virages
que ça existe
sur les groupes ultra. Sébastien Louis, vous qui étudiez ça avec précision, est-ce qu'aujourd'hui, comme le dit, on va dire, la rumeur publique, est-ce qu'aujourd'hui, la grande majorité des groupes ultra italiens sont marqués politiquement à l'extrême droite?
Oui,
est-ce que c'est vrai?
Oui.
Alors, non. À l'heure actuelle, en fait, les ultras sont dans une lutte pour leur survie. Car depuis 2007, avec la mort de Filippo Raciti, le mouvement ultra a été rasé quasiment, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus amener de banderoles, ils ne pouvaient plus amener de mégaphones, etc. Et donc ils ont oublié la politique et il y a peu de virages qui sont véritablement politisés. Déjà la question de la politique, et j'en parle dans mon livre, j'y consacre un chapitre, la plupart des groupes, même s'ils exhibent des symboles politiques, ils ne sont pas véritablement politisés.
Sébastien, la nuance, excuse-moi, mais les tribunes de la Lazio sont majoritairement d'extrême droite, la Roma, il y a eu un basculement, la majorité sont d'extrême droite, à l'Inter, c'est également vrai, Milan, qui était traditionnellement à gauche, on va dire, c'est un petit peu... La plupart des supporters de la Juve le sont aussi. Faut quand même être lucide. Les tribunes en Italie et les mouvements ultras sont très très marqués à droite, à part à Livourne.
Alors non, pas du tout. Au contraire. Effectivement, les exemples que vous avez parlé, l'Inter historiquement depuis les années 70 sont marqués à l'extrême droite. Vérone est le fief de l'extrême droite depuis 1976,
etc. Donc en fait, tu vas répéter les clubs que je viens de dire et tu vas me dire que j'ai pas raison.
Ne s'intéressent pas à la politique. La plupart des ultras ne s'intéressent pas à la politique. Les symboles sont sur volants.
Bon, non, ils ne s'intéressent pas. Ils mettent des symboles nazis, mais ils ne s'intéressent pas. T'as raison.
Alors attention, si vous allez en Italie, arrêtez-vous une station-service et vous pourrez trouver facilement des bouteilles avec Mussolini, ou avec Hitler, leur Che Guevara, etc. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, c'est une politisation de surface. Quand on parle de véritable politisation, on en a essentiellement dans des tribunes symboles comme Vérone. Vérone, par exemple, est depuis longtemps, aussi bien la ville que le stade, un laboratoire de la droite et de l'extrême droite. Voilà, ça c'est assez intéressant. Mais véritablement, la plupart des groupes ultras, si vous y allez, bon nombre de groupes ultras abordent des slogans ultras no politica, hein, parce que la politique a divisé les ultras. On retrouve même à la Lazio, et je vais vous étonner, mais même à la Lazio, on peut trouver pas des militants d'extrême gauche, mais des gens qui sont de gauche et qui sont ultra de la Lazio. Ils sont peut-être en minorité, mais ça existe. On retrouve ça dans toutes les tribunes. Il faut savoir que ce qui unit avant tout les ultras, c'est la défense de leur ville, de leur équipe et de leur groupe. Donc là, la question de la politisation, il faut faire attention. Depuis quelques années, elle est en retrait. Et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on a vu lors d'Internapoli. En fait, c'est déjà pas forcément les ultras, parce que les ultras, et par exemple, c'est le cas à l'Inter, ils ont des liens avec leurs dirigeants. Certains ont des liens avec plus ou moins avec les RG italiens, la Digos. Et donc, par souci pour avoir des billets gratuits, dans certains groupes, ça existe, certains ultras tiennent leur tribune. Voilà. On a le même cas en France. Et donc, qu'il faut voir, oui, à l'Inter, effectivement, quelques ultras qui
ça,
sont
c'est l'hypocrisie générale de ceux qui s'offusquent, alors qu'en fait, les mecs sont amis avec certains flics, les dirigeants, exactement, ils les tiennent dans la main parce que sinon, c'est le bordel et il n'y a plus de soutien derrière. C'est et la même chose. Ça, c'est la même chose en France avec certains dirigeants. Il n'y a pas un dirigeant niçois qui a dit qu'il y avait une banderole de la BSN à l'Inter le soir de Internapoli, par exemple.
En France, on a parlé beaucoup de groupes, d'ultra des Nice qui participait.
Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Il n'y a aucun dirigeant niçois qui s'est offusqué devant une banderole BSN à l'Inter.
Sébastien est au téléphone, donc c'est plus compliqué pour lui s'exprimer. Allez-y, Sébastien, pouvez conclure.
Donc je disais, oui, Salvini, par exemple, il y a un mois, il a été au 50e anniversaire de la Cour Vassoud de Milan et il a posé à côté d'une personne qui a été condamnée pour trafic de drogue. Et par la suite, il a dit, oh oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont été inquiétés par la police et moi aussi, je suis inquiété par la police en faisant référence à l'affaire cet été par rapport au bateau. Et donc tout ça pour dire que certains, dans certains virages, certains leaders ont des intérêts et donc même s'il y a quelques symboles de politisation, il faut s'en méfier. Il est clair que certains petits partis extrémistes comme Forza Nuova, mais surtout Casa Pound tente d'infiltrer les ultras et c'est le cas principalement à Rome. À Rome, contrairement à ce que vous dites, Rome a souvent et ça a été longtemps une ville où l'extrême droite a été importante. Et donc c'est ça ce qu'on voit, que ce
bien
soit
sûr
à Rome, bah, que ce soit
Rome,
à Rome.
Évidemment, il y a encore des quartiers fascistes dans la ville, mais évidemment, il manquerait plus que l'extrême droite n'ait pas été importante à Rome, c'est le berceau de l'extrême droite.
Alors, j'aimerais, on va accueillir Alex au 32-16 qui voulait réagir à notre débat. Alex, alors attends, Alex, tu es là?
Oui, allô, je suis là, ouais.
Ouais, alors, je vais te donner la parole dans quelques instants. On fait une petite pause et tu as la parole juste derrière. On continue le débat ensemble avec Sébastien Louis. On se retrouve tout de suite dans l'after. Bouge pas, Alex, on arrive.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, Simone Rovera et Sébastien Louis, spécialistes du mouvement ultra, notamment en Italie, mais pas que. Nous débattons suite, bien sûr, aux insultes racistes envers le joueur de Naples, Koulibaly, il y a quelques jours. On va évoquer les solutions que veut mettre en place le foot italien, mais puis on va également partir un peu partout en Europe pour voir ce qui se passe en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne. Mais d'abord, Alex, avec nous au 32-16. Alex, rebonsoir.
Bonsoir à tous.
T'as écouté notre débat et toi tu voulais déplacer doucement le débat vers la France.
Ouais, je voulais en profiter pour déplacer doucement le débat vers la France. Et bon, comme je disais tout d'abord, bonne année à tous, meilleurs vœux, etc.
Bonne année.
Et merci. Et en fait, donc voilà, j'ai regardé le reportage d'Olivier Lacour avant-hier soir, je crois. Mmh. Et voilà, j'aimerais soulever plusieurs points, à savoir le premier, j'ai été extrêmement surpris voire choqué du ton que prenait le président de notre fédération, à savoir Monsieur Le Graët. En ayant face à lui Olivier Lacour, je l'ai trouvé vraiment méprisant, en fait. J'ai trouvé que dans un premier temps, en fait, il avait
le
l'air d'entendre...
Le Graët méprisant, bon...
Ce sera pas une surprise pour tout le monde,
mais... Non, ça non.
mais vraiment, je trouvais un mépris énorme et aussi une forme de déni, en fait, du problème, puisque les coachs qu'on a aujourd'hui sont, comme le disait Olivier Dacourou, champion du monde ou champion d'Europe, et on met complètement à part le problème de toute cette minorité qui n'est pas représentée, mais qui sont des gens lambda qui tentent de passer leur diplôme. Donc, au-delà du mépris que j'ai pu observer...
Oui, là, tu ne parles pas de problème de racisme dans les tribunes en France. Tu parles de représentation des minorités à certains postes dans le foot, notamment sur les bancs.
Tout à fait.
Ça, en revanche, c'est un sujet avec lequel j'ai du mal, parce que par la même, à chaque fois qu'on parle de ça... On dit par ailleurs qu'il y a extrêmement, au niveau des diplômes, il y a très peu d'entraîneurs noirs qui passent leur diplôme et qui font acte de candidat, enfin qui ont envie de devenir
peut-être
entraîneur.
Peut-être qu'ils ne le font pas. Alors, en se disant, on ne va pas me le donner,
ou c'est
pas. Je ne sais pas, Daniel. Il faudrait que certains puissent témoigner, certains candidats ou non candidats puissent témoigner.
Ça, je crois pas. Aujourd'hui, excuse-moi, Vieira est revenu. Enfin, je trouve qu'on se pose même pas la question. Ça n'a pas de sens de se poser cette question-là. Ça, j'y crois pas.
Alex.
Moi, j'aimerais justement, sur le problème que soulève Daniel, faire un parallèle avec mon propre métier, à savoir, et en partie il a raison, moi je suis comédien, et moi-même je suis passé par, on va dire, l'équivalent de l'INF Clairefontaine du théâtre, qui est le Conservatoire National de Théâtre. Mmh. Il est vrai que pour l'entrée dans ces écoles, moi qui me suis formé en tant que comédien, il y a très très peu de noirs ou de gens issus de la diversité qui se présentent à ces concours. Et donc la représentativité même des gens présents dans cette école, par conséquent, fait que sur 30 élèves, chaque année, on est un ou deux.
Après, il peut y avoir une forme, là Gilbert ouvre une piste, il peut y avoir une forme d'auto-censure, ou simplement en fait... de cheminement culturel qui fait que tu n'es pas porté vers ce genre de métier-là parce que je sais pas
ou t'as le sentiment qu'on te fait comprendre que c'est pas pour toi.
Non,
tu crois peut-être que
tu vas être bloqué, c'est différent.
Ouais, Alex,
c'est de l'auto-censure,
c'est pas la même chose.
Parce que je ne crois pas qu'il y ait aucun cours de théâtre qui refusera de prendre un étudiant noir. J'y crois pas une seconde à ça.
Moi, je pense qu'il y a deux options en fait par rapport à cette réflexion. À savoir, en effet, la première, c'est comme si d'emblée on se disait, de toute façon, je ne corresponds pas au code de ce milieu.
Pour revenir au foot, c'est en substance ce qu'avait dit Jean Tigana, et c'est pas n'importe qui, quand on lui avait refusé le poste de sélectionneur. Hein,
ça, c'est un cas.
Il y a quelques années.
Ça, c'est en revanche un cas avéré, mais là, qui était différent, c'était Jean, on le prend pas, parce que là, je suis d'accord avec toi, en revanche, là, il avait été refusé en partie parce qu'il était noir. Ça, c'est vrai.
C'était un cas avéré, tu dis?
Tigana,
c'est une chose différente. Donc, d'une part, il y a ça, et d'une seconde part, moi aussi, j'observe une chose en discutant avec des gens que moi-même j'invite à se former, des gens moi je viens d'un quartier et je suis sorti de ce quartier pour étudier et m'intéresser à autre chose, et il y a aussi pour moi à certains moments une sorte de manque d'humilité à accepter qu'on a des choses à apprendre qui est autre chose, vraiment c'est une chose que j'ai pu observer, comme si on disait je n'ai pas besoin que ces gens-là m'apprennent des choses, je pense pouvoir me débrouiller par moi-même. Alors, je pense ne pas avoir à passer par là.
Reste avec nous, parce que moi j'aimerais que Jérôme quand même témoigne. Il y a un truc dans le foot. Bon, il n'y a pas plus de diversité que dans un vestiaire de foot.
Exactement.
C'est-à-dire que, je parle des joueurs, hein, évidemment. Toi, t'as vécu le vestiaire, t'as eu à entendre sans doute des insultes racistes envers certains coéquipiers dans les stades où t'es passé. Ouais. Et quelle expérience t'as pu vivre?
J'en ai subi aussi. Hein.
T'en as subi aussi?
Oui, j'en ai subi. Après, c'est
sûr. Bon dîner, on disait.
Non. Mais ce que je veux te dire, c'est que. Malheureusement, ça s'est installé, et c'est vrai qu'il y a pas de, quand tu joues, il y a très peu de solutions en fait. C'est soit l'arbitre décide d'arrêter le match, et moi j'ai jamais vu.
Au Pays Bas, c'est arrivé une fois. Hein.
Voilà. Soit les joueurs décident, mais tous les joueurs, pas que les joueurs de couleur.
Ouais, c'est ça en fait.
Tous les joueurs décident de partir, et je l'ai jamais vu non plus.
Ouais, mais est-ce qu'on peut.
Après, pour reparler d'un vestiaire, là, on est en train de parler de. Comment c'est.
Alex.
Alex qui fait des
voilà, là, on mélange. Dans on était parti sur ce qui se passe dans les tribunes. Là, Alex, vous a déplacé.
Exactement. Alors que.
Sujet.
Dans le football, non. Dans la formation, par la suite, dans un vestiaire, comme tu le dis, il y a tellement de diversité que nous, ça n'existe pas. Entre nous, entre les joueurs, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de... Alors, tu peux avoir des exceptions, attention, mais les exceptions, ils s'écartent tout seuls. Déjà, le club va écarter les joueurs et puis ils vont dégager. Le reste, ça n'existe pas. Mais maintenant, pour en revenir aux tribunes, à ce qui se passe dans... J'ai joué en Corse. En Corse, j'en ai entendu des choses.
Mais il paraît qu'il se passe jamais rien.
Attention. Il n'y a pas que en Corse, Daniel.
Non, mais c'est d'accord.
Mais en Corse, ça arrive, oui. Ça arrive d'avoir des cris de singe, d'avoir des insultes sur les Blacks. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve ça incroyable, c'est qu'on laisse faire. Parce que ces personnes-là, tu les comptes sur les doigts de la main. Tu les prends, tu les vires à vie. Ça doit être d'extension radicale.
Parlons justement des solutions.
Alors, moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que, au final, dans ce qui s'est passé en Italie, j'ai bien suivi l'affaire pendant les fêtes. Il faut quand même dire aussi que, globalement, dans une très grande majorité, Koulibaly a été soutenu par tout le monde. Le week-end d'après, dans les tribunes, il y avait plein de soutiens, des Italiens qui avaient mis même des masques de Koulibaly. Il a été soutenu à peu près par tout le monde. Bon, Salvini a pas été méga clair. Il faut bien le reconnaître aussi quand même. C'est quand même le chef du gouvernement. Il a été moyen. Mais dans les stades, globalement, l'opinion en général a soutenu Koulibaly. Donc, dans le rapport société-stade, qui pour moi est toujours important parce que c'est un reflet, l'Italie a soutenu Koulibaly. Et ça, il faut le dire, c'est très bien. Ensuite, il y a eu la sortie de Carlo Ancelotti. C'est celle-là, pour moi, le nœud du problème. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ça, on dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas et tout. Ancelotti s'énerve, il a raison. Il dit la prochaine fois, on quitte le stade. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend la prochaine fois on quitte le stade. Mais quelque part, je comprends sous la colère que tu fasses ça, mais si lui il fait ça seul, en gros les mecs de Naples disent on sort.
Ouais.
Voilà. Et les joueurs de l'Inter, ils font quoi? Ils sortent pas. Ça veut dire que le joueur de l'Inter, il reste en disant bon bah le mec, il est pas dans notre équipe. Bon, nous on a un noir dans notre équipe, il va fermer sa gueule, il va rien dire. Et donc ça veut dire que nous on est d'accord avec l'abruti qui a fait ça en tribune? Non, tout le monde se barre.
Faut être solidaire.
Mais si tout le monde se barre. Putain, ça veut dire que il y a 50 000 personnes dans le stade.
Ouais.
On va grossir à 100 crétins et tu fais payer 45 000 pour 100 crétins, tu punis les autres.
Mais Daniel,
même les gens qui sont à la télé, les passionnés de foot et tout.
Mais Daniel, encore une fois, le foot fait rien.
La FIFA a fait 1000 campagnes, 1000 choses.
Mais quand tu dis
le monde entier soutient Koulibaly.
Pour 100 crétins, tu vas punir 45 000. Mais c'est pareil pour la personne, et là c'est pas du tout côté raciste, personne qui va ouvrir les fumigènes et qui va balancer les fumigènes. Il y en a 10 dans un virage. Tu sanctionnes qui sur le match d'après? Quand les terrains sont à huis clos.
Alors,
tu sanctionnes
tout
un stade.
Tu dois avoir des caméras pour le trouver. Tu dois avoir les moyens de le saluer.
De la même façon, caméra radiée à vie.
Exactement. Ben oui, ben c'est ça, c'est ce que je te dis.
S'il vous plaît, j'aimerais que Sébastien nous donne son avis à lui. Sébastien, quelle est la solution, si dans vos études vous en avez envisagé une, idéale de réaction aux actes racistes dans les tribunes?
Alors, tout simplement, pour moi, c'est une solution qui doit être ciblée. Ça, c'est la première chose. Quand on a quelque chose de racisme dans les tribunes, il faut savoir, comme je l'ai déjà dit et répété, le stade, c'est un miroir de nos sociétés. Donc, si on a des stades sans racisme et une société pleine de racisme, finalement, ce sera très hypocrite. Donc, peut-être, alors c'est pas bien, hein, mais finalement, ce qu'on voit dans les stades, c'est une expression que l'on verra dans la société.
Donc, moi, je suis d'accord avec ça, je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Ouais.
Des sanctions très ciblées, bien évidemment, et ensuite, pourquoi pas faire des projets éducatifs, tout simplement, que les clubs qui ont commis des actes racistes soient obligés de faire des projets.
Et le mec ultra, il en a rien à cirer de ton projet éducatif.
Non, je parle pas de l'ultra,
il faut le radier à vie. Le mec, tu l'as chopé, tu lui dis tu reviens plus, comme ils ont fait en Angleterre avec le mec qui a acheté la banane à Chelsea, et puis au revoir, c'est tout. Et les autres, tu les punis pas pour lui, mais il faut obliger. Alors le truc que peut faire la Ligue ou la Fédé, c'est d'abord, normalement en France, c'est fait, c'est obligé tous les stades d'avoir des caméras qui permettent d'identifier normalement tous les fauteurs de troubles, et c'est même au-delà du trouble, donc ça doit être possible d'identifier le mec, ou en tout cas 3-4 mecs qui ont fait ça, et tu fais une radiation à vie.
Quand c'est toute une tribune, comme le dit Sébastien, compliqué d'identifier individuellement chaque personne qui a fait des cris de singe, par exemple.
Mais après, on a des stewards, on a des choses. Ça veut dire, c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, on arrivera à identifier certains. Mais après, ce qui serait bien, c'est que les clubs participent à un fonds, par exemple, que les clubs qui soient pris en flagrant délit. Là, les clubs en France, ils sont en train de payer des amendes énormes pour des fumigènes, alors que c'est quelque chose de ridicule. Par contre, la question du racisme, qui est bien plus problématique que celle des fumigènes, pourquoi pas faire des amendes sur le même barème? Là, pour 3 fumigènes, il y a 10 000 euros, 30 000, 40 000. Pour 50 fumigènes, il y en a 500 000. Pourquoi pas la même chose? Il faut les toucher au cœur, les finances, et cet argent.
Oui, mais en France, c'est rare. On n'entend plus trop ça dans les stades, ça.
Non, mais les problèmes aussi.
On n'entend plus. Mais en Italie, personne
ne le sait. En Italie, on parle beaucoup parce que certains clubs veulent changer les principes de la responsabilité objective. Si tu veux payer toujours le club, pour ce que se passe dans les tribunes, pour ce qui se passe pour 55 supporters, les supporters peuvent avoir un moyen de chantage vers les clubs. Et ça, ça arrive souvent. Il y a des soucis énormes. Il y a eu à la Lazio, à l'époque Ragnotti, la Lazio était sous la prise des supporters.
Bien sûr.
Aujourd'hui.
Qui disait, on te fout le bordel si tu nous donnes pas ça.
Voilà.
Bien sûr. Aujourd'hui. Le match à huis clos pour l'Inter. Je trouve pas que ce soit une bonne solution. Déjà, t'as 40 000 mecs qui peuvent pas venir au stade alors qu'ils ont rien fait. L'Inter. Tu prives l'équipe. Non, ça, l'équipe, elle est pour rien.
Mais ça, c'est
pour dire. Et ça pour dire. Ils l'ont accepté par, en fait, c'est le jeu politique après qu'ils ont été obligés d'accepter.
Ouais, la fédération italienne a donné les feux verts pour le fait que pour le match face au Sassuolo, un des deux, il y aura tous les premiers anneaux des San Siro qui soient remplis par les enfants des écoles football de l'Inter.
Bon, bah, donc, c'est
une image,
mais
aussi
mal,
pour ne donner pas une image des stades toujours vides.
Ouais,
parce que ça n'aide pas.
Ouais.
Les problèmes qu'en Italie, on veut changer cette responsabilité objective, seulement pour terminer, c'est parce que aujourd'hui, on trouve que certains groupes des ultras ou des supporters, on ne veut pas dire que tous les ultras sont méchants, ok, mais il y a des supporters des ultras qui sont méchants, qui arrivent à prendre un contrôle des certains aspects du club avec cette responsabilité objective,
avec cette menace, bien sûr.
En train de mettre vraiment en danger aussi le club qui veut faire des choses bonnes.
Ouais, c'est vrai.
Alors,
c'est vrai.
Petit tour d'Europe. Sachez que en Allemagne, comment ça se passe? Alors, le racisme a nettement reculé en Allemagne depuis quelques années, parce qu'il y avait des bastions, notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est, très puissants, avec des tribunes 100% racistes. C'est, en l'occurrence, sanction pour le club et interdiction de stade. Donc, sanction pour les clubs. En Allemagne, ça marche comme ça. En Angleterre, il y a eu l'exemple récent, Daniel t'en parlait, de la banane jetée vers Aubameyang. Là, comme on a un réseau de vidéosurveillance obligatoire dans tous les stades, on arrive à identifier individuellement les supporters fauteurs de troubles et, évidemment, dépôt de plainte, sanctions qui vont de l'amende à la prison en l'occurrence. En Espagne, il y a eu de gros problèmes. En Espagne, il y a quelques années, je parlais de Samuel Eto'o. C'était il y a une dizaine d'années maintenant. La situation a grandement évolué. D'ailleurs, là-bas en Espagne, il est reconnu que c'est un des combats qu'a gagné Javier Tebas, le président de la Ligue, qui a été précurseur. Il a mis en place en fait un système d'alerte dans les stades, tout ce qui est insulte raciste, homophobe. Donc il y a notamment des supporters de Real qui avaient traité Messi d'attardé mental, qui lors d'un récent Madrid-Barça, qui ont été condamnés, abonnement retiré, 17 personnes concernées. Donc on agit en fait. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'on agit sur l'individu plus que sur le groupe.
Je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Et c'est le cas aussi, attention, je précise, c'est le cas aussi en France. Si demain, il y a un acte raciste, il y a la possibilité en France également d'aller chercher l'individu.
Et si tu nommes des responsables de groupe, et si, comme il disait tout à l'heure, ça tu peux pas identifier s'il y en a 150 qui font boubou. Et ben, si les leaders que tu chopes, et les leaders ils vont pas faire le ménage après pour qu'il y en ait pas qui le fassent, ça. Si tu dis aux leaders, bah si un, c'est les 10 leaders, c'est vous qui allez être radié à vie. À mon avis, ils vont vite faire la police en haut après.
Je remercie Sébastien Louis qui nous a accordé quelques minutes. Évidemment, on pourra le retrouver sur toutes ces questions. Je rappelle qu'il a écrit un bouquin sur le mouvement ultra qui est sorti il y a quelques mois. Et je rappelle qu'en France, comme ailleurs, l'arbitre a la possibilité, effectivement, d'arrêter le match. S'il entend. Ouais.
Décrit pas les terminer.
Sauf que ça, c'est quand même un problème.
Moi, je,
parce que
je trouve pas
quand
que
tout le stade entend les cris de singe, et comme récemment, c'est arrivé, me semble-t-il, en Italie, où l'arbitre dit, moi, j'ai rien entendu.
Non, ouais, et même arrivé. Souvent, même il est arrivé.
Toi, t'es le seul à pas avoir entendu.
Il est arrivé que le reste du stade siffle ceux qui font ça.
Ouais,
c'est arrivé aussi ça en Italie. Donc, tu vois, priver tous les autres dans le stade parce que t'as les abrutis qui font ça.
Je trouve quand même que les arbitres manquent globalement de courage sur cette affaire. Parce qu'ils pourraient.
Aussi.
L'arbitre d'Inter Naples aurait pu prendre l'initiative. Lui,
mais il va faire quoi? Alors,
mais toi, l'arbitre peut arrêter pour une période temporaire limitée.
Une fois, l'Europe entière le verra, et ça peut.
Franchement, alors, les mecs, sont
en Italie, rien à cirer, quoi, vraiment.
C'est lui qui décide l'arrêt du match, c'est pas l'arbitre, c'est le responsable du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire un fonctionnaire de police, qui est nommé et qui est avant les matchs, et qui c'est lui qui dit si le match peut s'arrêter. Pour ce qui concerne ces matchs, pour terminer rapidement, en théorie, cette personnage a été informé qu'il y a eu des graves accidents dehors du stade avant les matchs. Et aussi pour un discours de sécurité, c'est pas officiel, mais on sait que c'est passé comme ça. Pour un discours de sécurité, il a dit c'est mieux de ne pas arrêter un certain match quand il y a eu des affrontements entre des centaines de supporters.
Quand on sait que dehors, il y a eu un mort après.
Simonet, merci beaucoup.
Merci. On va peut-être le libérer parce que là, vu que Daniel a dit qu'il avait le drapeau italien collé au cul. À mon avis, là, c'est un tatouage que t'as maintenant. Ça fait trois quarts d'heure que tu nous parles de l'Italie comme ça.
Non, mais il a le drapeau italien dans le cœur.
J'ai deux drapeaux.
Simonet.
Ah, dans le cœur. Reprends-toi. J'ai l'impression qu'il l'avait aussi dans le...
Dans quelques instants, le Sporting Club de Bastia et le reste de l'actu foot du jour. On a encore plein de choses à vous dire dans l'after, notamment tout ce qui est mercato aujourd'hui. 23h46. On se retrouve tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là. Jérôme Rotten, Daniel Riolo, bien sûr. Je vous ai promis du mercato. Vous allez avoir du mercato. Mais d'abord, comme promis, juste avant Noël, nous revenons sur un couac de l'after. Oui, l'after a connu un couac. Rappelez-vous quand nous avons décidé de déterminer l'équipe type et l'équipe pipe de l'histoire de Bastia.
Oh.
On était mal tombés. On n'était pas dans un bon soir. On n'était pas satisfaits. Et on s'est dit, il faut appeler un juge de paix. Un homme, incontestable en la matière. Jérôme, tu le connais bien. Daniel aussi, je crois que tu le connais. On a contacté aujourd'hui le célèbre Joe Bonavita, qui a vu son premier match au stade à Furiani en 1947. Autant dire que le mec, en termes d'histoire du Sporting, voilà.
Oui. C'est le patron. Là.
C'est le patron, c'est incontestable. Et figure-toi qu'il nous a dit, les gars, je suis embêté. Au club, on fait la même chose. Donc, on leur a un peu donné l'idée. Au club, ils ont fait une liste de 60 joueurs pour demander aux supporters de déterminer leur rang historique. Et qui est dans ces 60? Je vous le donne en mille. Sur Bretagne, bien sûr. Il est dans les 60. Catégorie numéro 10. Il est tombé dans les 10. Hein.
Bah, c'est normal. C'est là que j'ai excellé. C'est là que j'ai fait remonter le club. C'est là.
Alors, pour réparer donc ce couac de l'after, je vous livre l'équipe de Joe Bonavita que vous découvrez sur RMC Sport News. L'équipe le 11 type de l'histoire du Sporting Club de Bastia. Il a mis Pierre Quillard dans les buts. Il a fait une défense centrale Modesto Suma. Il a mis sur les côtés Bianconi et Orlanducci. Il a mis Papi et Essien au milieu. Il a mis sur les côtés Moravčić et Jérôme Rotten.
Et là, c'est vraiment parce
qu'il a mis Jérôme Rotten.
Alors, écoute.
Et devant, Fanfan Félix et Anto Drobniak. Voilà l'équipe de la légende bastiaise Joe Bonavita.
Ouais.
Celle-là, on peut pas la contester, Daniel.
Ah non.
On la conteste pas. Et en défense, il met pas de mec de 78.
Bah, Orlanducci.
Mais où je vois pas.
Orlanducci, Bianconi.
Ah oui, d'accord. Non, mais Bianconi, c'est pas
les. Il était central, mais il l'a mis à gauche parce qu'il voulait mettre les deux autres.
Il a bricolé. J'aime pas quand on bricole, moi.
Non, il a voulu. Je pense, il a voulu récompenser chaque génération. Et c'est vrai que lui, tu peux pas lui reprocher parce qu'il m'a mis. Hein, et toi, tu dis c'est mon ami et tout, alors que Jojo, je l'ai pas eu depuis mon départ de Bastia. Mais ça n'empêche que c'est un historique et qu'il a voulu récompenser chaque génération, à mon avis. Et des mecs qui l'ont marqué, c'est tout.
Bon, voilà, après, c'est normal. Erreur réparée. Les gens. Nous avons donc donné un 11 type qui vaut quelque chose concernant le Sporting Club de Bastia. Passons maintenant aux infos du jour. Écoutez Patrick Vieira qui parle de Balotelli. Vous savez que Balotelli, on en parle toujours à Marseille, sauf que Vieira a un peu refroidi tout le monde aujourd'hui. Écoutez.
Mario est toujours là. C'est un joueur qui est sous contrat, mais Mario est toujours là. Mario fait toujours partie de l'effectif. Il est dans une situation où il a besoin de réfléchir à son avenir et par rapport à ce qu'il a envie de faire et par rapport à ses options. Et on attend son retour pour savoir ce que lui veut faire.
Voilà, donc on n'exclut pas de le garder à Nice.
C'est incroyable, cette affaire quand même.
Ah, c'est moi, je suis exaspéré, j'ai même pas envie d'en parler.
C'est hallucinant. Non, mais au bout d'un moment, ça revient exactement. Tu sais ce que je, Daniel, ce que je disais tout à l'heure sur la mentalité.
Les supporters de Nice sont l'ancienne cagnotte Litchi, c'est la mode.
Sur la mentalité, des dirigeants. Mais foutez-le dehors. Écoute, t'as perdu l'oseille. De toute façon, cette année, il t'a pris pour un con. Au mercato d'été, là sur la première partie de saison, ça a été plus qu'un boulet qu'autre chose, d'accord.
Jérôme.
Au bout d'un moment, libère-le, dégage-le. Voilà, c'est pas, tu veux te libérer de ton contrat ? Allez, casse-toi.
Autre cagnotte Litchi, si tu veux cotiser, c'est ces supporters de l'OM qui l'ont lancé pour payer la clause libératoire de Rudy Garcia.
Ah là, il va falloir quand même ramasser beaucoup d'oseille.
Ouais, ça, 10 millions d'euros.
Je pense que c'est pas possible qu'ils arrivent au bout.
Voilà.
Même c'est tous les supporters de l'OM en France réunis, et même dans le monde.
Antoine Comboiré, nouvel entraîneur de Dijon. Salaire mensuel 110 000 euros par mois. Ça couinait au début, mais finalement, le président de Dijon a accepté ses
conditions. Quand Guy Lacombe a refusé, ça a plus couiné parce qu'il n'y avait plus personne.
Bah si, il y avait René Girard, coach Courbis, il y en avait encore.
Ah oui.
Écoute, tant mieux pour Antoine, hein. Il a demandé ça, il l'a eu.
Il a signé jusqu'à la fin de la saison, ça c'est bizarre parce que je sais pas si c'est légalement possible d'avoir des histoires de clauses.
Non, c'est pas possible ça.
Oui, bah ça a été annoncé comme ça.
Ouais.
À la fin de la saison.
Ouais, à mon avis, il y a des clauses derrière.
Laurent Blanc pas été approché? Pour Dijon, je veux dire.
Mais le problème, c'est que Lolo, il est tout seul, quoi. Et il va pas entraîner tout seul, ça va pas, quoi. Tu crois qu'il va mettre le survêt tous les jours, aller dire au mec ce qu'il faut faire, aller mettre les plots et tout? Non, c'est pas lui, ça.
Dans les infos du jour, je vous signale également que Balotelli à Monaco, c'est fait. Ouais. 11 millions d'euros hors bonus, quand même.
Moi, j'y réfléchis pour vainqueur, hein. Ils ont passé 2-3 tests en plus, c'était fait, mais finalement ils attendent un peu, ils sont pas sûrs.
Bon, Ramsey à la Juve cet été, par ailleurs.
Ça c'est un bon coup encore, la Juve et qui se place sur un joueur fin de contrat, c'est bien ça.
Et puis je vous raconte une histoire étonnante à Bordeaux. Alors je ne sais pas si notre ami Baptiste Le Caplin, dont on a parlé en début d'émission, a postulé.
Ah, sur Bordeaux tout.
Ah non mais attends.
Il prend tout, il croque tout à Bordeaux.
Les Américains ils ont des idées. Joe D'Agrosa, il a des idées.
Ah.
Et là, il a lancé un truc.
Il fait flipper les idées.
Il a permis à un couple, suite à un tirage au sort, de passer une nuit seul au stade. Alors, il y avait...
Ah, je croyais...
Je vous raconte.
Est-ce que Jimmy Briand était dans le coin ou pas?
Il y avait 7100 participants. Un tirage au sort. C'est un couple d'Auvergnats qui a été tiré au sort pour passer samedi prochain une nuit dans le stade vide, dans une loge transformée en chambre.
Et ça, il y a des gens que ça a intéressé, ça.
Bah, 7000 personnes ont postulé.
7000 couples.
Oui, exactement. Alors, t'auras une loge vitrée de 25 mètres carrés avec vue sur la pelouse, spécialement transformée en chambre. Il est précisé qu'il y a lit. Attends, écoute ça.
Il est allumé ou pas?
Il y a lit, table de chevet, miroir. Voilà.
Ouais, d'accord.
Tu vois?
Ouais.
Nécessaire de toilette. Et attention, petit bonus. Le matin, possibilité de prendre sa douche
avec
dans le vestiaire des joueurs.
Avec un JB.
Mais qu'est-ce que c'est que
dans le vestiaire
des joueurs. Par contre, t'as une surprise pour la femme dans le vestiaire des joueurs. Il y a un certain, les initiales JB qui s'annoncent et qui offre ses services.
Pour le cas où il y a besoin d'un supplément, il est dispo.
On peut pas dire que les Américains à Bordeaux, ils ont pas d'idée.
Ah ouais.
Pardon, mais
il allume le stade ou pas? Parce que si t'as vu sur le stade, mais il fait noir, t'as vu sur rien.
Non, mais là, j'ai...
Écoute, je sais pas.
J'ai du mal à...
Non, mais c'était sûr que c'est une vraie info, ça.
Mais on n'est pas le 1er avril.
Connerie, ça.
Non, c'est 7000, il n'y a pas de 7000 personnes.
Écoute, mais c'est vrai. Enfin, ça vous est incroyable.
7000 personnes.
Et si tu veux inviter, t'es obligé d'y aller à deux, là, dans le truc, ou tu peux aller avec des potes et tout?
Ah, à mon avis.
Ah, c'est un truc pour amoureux. T'étais supporter des Girondins, tu veux concevoir le petit dernier au
non,
stade.
Tu peux pas organiser genre une partie fine
plaisante quand même. Tu veux concevoir le petit dernier au stade dans le
quoi,
stade.
Ça devient un supporter de Bordeaux.
Super excitant.
Je suis sûr que Baptiste s'est mis dans la liste, lui il est capable.
En plus,
il adore la Matmut.
Je vais lancer le truc au parc là, tu vois.
Au
parc des Princes.
Tu vois, au parc dans le nouvel espace en haut là, un peu lounge là.
Hein. Il se passait des choses là à une certaine époque là-haut.
Sinon, le match Amiens PSG de ce week-end a été maintenu. Ah, le Pacha, remercions notre ami, notre ami qui l'a cité le Pacha, je vous ai envoyé le papier dans l'équipe.
Ah oui,
c'est Adrien.
C'est vrai.
Ouais.
Quand on venait en survêt
là-bas, il y a écrivain qui a sa rubrique dans l'équipe mag.
Il a fait sa chronique dans l'équipe mag.
Il a parlé de toi. T'as pas vu, il a parlé de toi. Il a dit que c'était toi le boss du Pacha. Tu garais la voiture, tu mettais le clignotant.
Je t'ai envoyé le papier, tu l'as même pas lu. Ça fait plaisir.
Mettez les warnings, je disais, les gars, allez, je vous donne le feu vert. Vous pouvez.
Eh ben, il raconte ça.
On y va une demi-heure. Mais bon, après, il y a eu 2-3 divorces. C'est pas de ma faute, hein. Écoute, ils sont fait surprendre.
Pourquoi? Est-ce que les mecs ont retrouvé leur femme à l'intérieur?
Ah ouais, ils cherchaient de la coiffeuse et des...
Info principale de la soirée, je vous le rappelle, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue, s'il vous plaît.
Cette image sans les coiffes.
Guingamp, Monaco et Strasbourg-Bordeaux. Voilà, on va s'arrêter là avant que ça dérape. Bonne nuit à tous. Les gars, demain, je vais remettre un peu fatigué là. On le met en repos demain. Mais l'after sera là quand même.
Moi, je suis fatigué, j'ai pas
demain.
En forme cette
Tiens,
semaine.
Demain, je vous le signale, premier match du mondial de handball. France-Brésil, 20h30,
ça, c'est
sur RMC.
Sport.
Qui Exactement. Gagne. Ah, Brésilien, tous les matchs sont sur RMC pour
le
mondial officiel.
Si, joue bien les Brésiliens.
Bien sûr.
Mais la France, on est au-dessus. Là, il y a une vraie mentalité de gagner.
Oui,
on devrait s'en servir.
Allez, bonne nuit à tous.
Ça gagne encore cette année, toi qui connais un peu.
Ça peut. Mais il y a l'Allemagne et le Danemark.
Ah ouais, quand même, c'est fort.
À demain dans l'after et bonne nuit.
Allez, bisous.
Bonne nuit.
RMC Football Show, l'After Foot.